France Inter.
France Inter. Le 18-20. Éric Delvaux.
Jamais la France n'a connu aussi peu de fumeurs et fumeuses qu'aujourd'hui. Trois raisons à cela. Depuis 1991, la loi Evin n'a fait que restreindre un peu plus l'usage de la cigarette dans les lieux publics. Parallèlement, les campagnes de santé publique se sont multipliées et puis en même temps, le prix du tabac n'a cessé d'augmenter. À la veille du mois sans tabac, le téléphone sonne, vous donne la parole ce soir, fumeur ou non fumeur. Les buralistes font grise mine et s'interrogent sur leur avenir. À l'inverse, les professionnels de santé se demandent comment aller encore plus loin. Faut-il prendre l'exemple sur le Royaume-Uni qui envisage l'interdiction générationnelle, c'est-à-dire interdire la vente de tabac à toute personne née après le 1er janvier 2009. On va en débattre ce soir avec nos invités. Faites-nous part donc de votre expérience du tabac, du sevrage ou du non-sevrage, de votre rapport à la cigarette et autres vapoteuses. Le standard de France Inter est ouvert et le téléphone va sonner jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne 01 45 24 7000.
Avec un premier témoignage, celui de Michel. Bonsoir Michel.
Bonsoir à toutes et à tous.
Vous êtes à l'antenne.
Eh bien, écoutez, j'ai téléphoné parce que pour essayer de rassurer des gens qui voudraient arrêter de fumer, moi j'ai réussi, donc je pense que d'autres peuvent réussir. Voilà, moi j'ai déjà, bon, il faut avoir l'envie d'arrêter de fumer, je pense. Hein. Ensuite, il faut avoir la volonté, c'est peut-être le plus difficile. Et puis après, ben voilà, il faut essayer. Et puis, comme je vous ai dit, ça a marché pour moi, ça peut marcher pour d'autres.
Hein. Ça a marché en une fois pour vous ?
Ouais, deux fois même, parce que j'ai arrêté pendant 7 ans et bêtement j'ai repris au cours d'une soirée. Et ça a été encore plus difficile pour moi la deuxième fois. Mais j'ai encore réussi, donc voilà. Et j'ai même réussi à faire arrêter mon épouse qui fumait pas mal, qui était très défaitiste. Il y a des fétistes, toujours d'ailleurs.
Ça, c'est autre chose.
Elle aussi. Elle a arrêté, ouais. La cigarette électronique, mais moi, j'ai arrêté totalement. Voilà.
Merci beaucoup pour ce premier témoignage, Michel, avec pas ce soir problème. Deux invités pour vous répondre. Professeur Amine Benyamina, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef du service de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Vous êtes aussi le président de la Fédération française d'addictologie et votre dernier livre a pour titre Addiction, manuel de premier secours, paru il y a quelques mois chez Marabout. Invité également Serdar Kaya, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes, vous, le président national de la Confédération française des buralistes qui représente les 22 800 buralistes de France. Notre premier auditeur disait... finalement, il avait arrêté, mais plusieurs fois. On va peut-être revenir avec vous, professeur Amine Benyamina. Ce n'est jamais gagné, l'arrêt de la cigarette, ça revient toujours, ça peut toujours revenir.
Clairement, je veux dire, ce témoignage est vraiment emblématique du lien qu'on peut avoir avec le tabac et l'arrêt du tabac. Il a dit deux choses, il a dit avoir envie, avoir la volonté, et je rajouterai la motivation. Il faut avoir les éléments pour pouvoir cheminer et ne pas s'arrêter. Alors évidemment, la grande majorité des personnes aux prises avec la consommation du tabac finissent par l'arrêter. La grande majorité. Et ceux qui ont du mal ont recours évidemment aux professionnels de santé, mais aussi aux dispositifs, aux médicaments, aux stratégies non médicamenteuses en cours. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la première fois, c'est assez rare de s'arrêter totalement. Et on doit s'y reprendre à plusieurs fois. Et d'ailleurs, votre auditeur a parlé de deux fois. On a pour expérience de voir plusieurs fois. Ce qui est important, c'est de ne pas se décourager, parce que le tabac est un produit extrêmement toxique, extrêmement morbide, avec beaucoup de morts, 78 000 morts par an en France. Et c'est un produit qui coûte cher à la personne et à la société. Donc, pas de découragement. Plutôt bien de commencer cette émission par cette note optimiste.
L'accoutumance, c'est la nicotine ?
La nicotine, évidemment. Il y a quand même un débat sur d'autres produits qui viennent, d'une certaine manière, être des adjuvants de la nicotine. Mais il est clair que la nicotine est un produit qui est hautement responsable et même complètement responsable de la dépendance. Et tout ce qui est autour est responsable des maladies que l'on connaît, des maladies graves, notamment les cancers.
Alors, on va voir dans un instant dans quelle mesure les Français fument de moins en moins. Serdar Kaya, vous êtes le président national de la Confédération française des buralistes. Comment regardez-vous ces chiffres en baisse de la consommation de tabac en France, du côté des buralistes ?
Écoutez, Santé publique France a fait une étude qui est en tout cas en phase avec la réalité. Même s'il y a eu une enquête sur laquelle il faut être très prudent, parce que cette enquête, au-delà de l'enquête téléphonique, c'est une enquête aussi liée sur une enquête par Internet. Mais cependant, c'est vrai, il y a un mode de consommation qui évolue, qui change, et qui a une tendance baissière sur les consommations de tabac au quotidien en France. Ça, c'est un point qu'il faut tout de même saluer, peut-être par des efforts de prévalence, de pédagogie, en tout cas sur le danger du tabac, comme l'a dit le professeur. Mais il y a aussi un point important à souligner, c'est que nous, buralistes, nous constatons depuis plusieurs années, même s'il y a cette baisse tendancielle, eh bien, un marché parallèle, un marché de contrebande et de contrefaçon qui explose. D'ailleurs, l'étude TAF qui est sortie il y a quelques jours préconise un vrai travail de fond pour combattre le marché parallèle, le marché de contrefaçon, et aussi travailler à l'échelle européenne sur une réduction des écarts de prix, une harmonisation aussi des prix.
Et vous demandez un moratoire, notamment au chef de l'État, on va en reparler dans un instant, un moratoire sur l'augmentation toujours des prix du tabac. Béatrice, 01 45 24 7000, Béatrice nous appelle du Finistère. Bonsoir Béatrice.
Bonsoir.
Un témoignage ou une question ?
Oui, tout à fait. Un témoignage donc à propos de la méthode d'Alan Carr, hein, donc avec le fameux livre « Mon programme pour en finir avec la cigarette » grâce auquel j'ai réussi à arrêter de fumer. Donc en fait, je fume depuis 16 ans, j'ai plus de 60 ans. J'ai arrêté de fumer pendant 4 ans dans les débuts des années 2000. Et puis il y a 2 ans et demi, mon fils, qui avait lui-même réussi à arrêter grâce à cette méthode, m'a offert le bouquin. Alors je l'ai lu d'abord lentement, et puis parce qu'en fait je voulais pas que ça marche, et puis j'ai dit bon allez j'y vais. Et voilà, la méthode elle est basée non pas sur la volonté comme beaucoup pourraient nous le faire croire, mais sur se faire confiance et arrêter de penser que cette cigarette c'est effectivement la petite béquille qui nous soutient. C'est pas vrai du tout, en fait on arrive à marcher tout seul sans. Et ben franchement, c'est chapeau à ce qu'elle a.
Ça a marché pour vous. Merci de ce témoignage, professeur Amine Benyamina. Cette méthode, Alan Carr, je crois qu'elle a plus de 40 ans. Oui. Hein, le livre est sorti en 85, me semble-t-il. Se faire confiance, c'est ce qu'elle retient, notre auditrice Béatrice du Finistère, de ce livre. Se faire confiance, oui. Mais il faut peut-être aussi être aidé.
Complètement. Évidemment, Alan Carr a écrit avant, évidemment, que ça ne soit d'une certaine manière théorisé, protocolisé, les prémices de ce qu'on appelle les thérapies cognitives et comportementales dans le cadre du tabac. Se faire confiance, c'est ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire dès lors que je commence à avoir des résultats, même des signaux faibles, sur ma capacité à ne pas laisser le tabac emporter ma motivation, ma volonté de m'arrêter, et petit à petit, mon sentiment d'efficacité l'emporte sur le reste. Évidemment, il y a d'autres éléments, mais parfois quand on n'a pas cette capacité à finalement mettre un pas devant l'autre, il faut aller avoir des stratégies, des techniques, avec des professionnels qui sont évidemment
compétents pour cela,
à avoir quelques bribes pour pouvoir y arriver. Et ensuite, comme pour la nage, on se lâche et on est seul hein, dans l'eau.
Un mot sur les derniers chiffres du nombre de fumeurs en France. On en parlait un instant avec Serdar Kaya du côté des buralistes. 4 millions d'adultes de moins qu'il y a 10 ans. 10 fois moins d'adolescents qu'il y a 20 ans. Et c'est peut-être cela qu'il faut pointer, c'est que les jeunes fument de moins en moins.
Oui, les jeunes fument de moins en moins parce que, évidemment, je vais peut-être un peu contrariant à votre invité, c'est que le tabac coûte cher et donc on le fait aussi pour arriver finalement à l'objectif d'une génération zéro tabac. Et puis le tabac a été d'une certaine manière ringardisé de plus en plus grâce au travail évidemment des associations, au travail d'information. Et puis on a réussi petit à petit à faire du tabac un produit qui n'est pas un produit jeune. Rappelez-vous, il y a 40 ans, on avait une image du tabac associée à la performance, à la jeunesse. Et puis on avait aussi
le machisme, le cow-boy.
Ensuite, on a petit à petit, on s'est rendu compte que ces populations étaient arrêtées de consommer parce qu'ils mouraient ou étaient malades. Et donc, il fallait investir deux populations qui étaient les femmes et les jeunes. Et donc, on a associé l'image du tabac avec l'élégance, le féminisme, et l'image du tabac avec la jeunesse. Et donc, petit à petit, ces deux populations cibles, qui d'ailleurs le sont aussi pour d'autres produits, hein, comme l'alcool, ont commencé à se réveiller. Et là, c'est extrêmement important d'avoir ça en tête. C'est vraiment une des grandes victoires de la prévention ciblée.
Et on a fini par mettre une brindille entre les lèvres de Lucky Luke. Serdar Kaya, on parlait de cette moindre consommation chez les adolescents. La vente de tabac est interdite hein, aux mineurs de moins de 16 ans.
18 ans.
Au moins de 18 ans aujourd'hui. Comment s'y prennent les plus jeunes pour contourner la loi? Ils se présentent face à vos bureaux de commerce?
Alors moi, je veux tout de même saluer nos collègues buralistes qui ont le sens de l'engagement. Il y a, par moments peut-être, de certaines failles, parce qu'on n'est pas non plus toujours très captif sur la personne qu'on a en face de nous, mais il y a un vrai professionnalisme depuis quelques années, un vrai sérieux par nos collègues, par des formations, des accompagnements par la Confédération sur des modules pour être beaucoup plus prudents. Nous avions, il y a quelques mois, pu mettre en place sur nos caisses des caméras qui puissent instantanément identifier l'âge grâce à une intelligence artificielle qui est pour le coup suspendue a priori par la CNIL actuellement. Là, nous avons vraiment besoin d'un coup de pouce à travers les experts pour pouvoir nous accompagner dans cette démarche, parce que ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe et qui nous tient à cœur, parce que nous avons aussi le sens de la responsabilité. Mais je vous dirais une chose, c'est qu'aujourd'hui, les consommateurs de cigarettes, ou bien ces jeunes qui fument beaucoup moins, et là-dessus, je vous rejoins, c'est que l'autre jour, je suis passé devant l'université de Compiègne, où je suis dans l'Oise. Il y a 15 ans, nous avions une foule de jeunes qui fumaient. Désormais, nous avons une foule de jeunes qui se retrouvent autour de certaines cigarettes électroniques. Alors, il y a les jetables qui sont vendus sur le réseau illégal, mais il y a aussi ces cigarettes électroniques qui sont vendues par les buralistes qui, eux aussi, accompagnent leurs consommateurs sur des nouveaux produits sur lesquels les faits sont en tout cas réels et les professionnels qui sont les buralistes jouent le jeu là-dessus.
Professeur Benyamina, sur ces cigarettes électroniques jetables avec un goût fruité, hein, les puffs, elles étaient d'ailleurs souvent présentées comme des confiseries alors qu'elles contenaient de la nicotine. Elles ont finalement été interdites. Est-ce que ça a inquiété l'addictologue que vous êtes?
Ah bah complètement. Je dois reconnaître que la Fédération française d'addictologie Addiction France, que je préside également, ce sont des associations qui ont milité pour l'interdiction. Je le dis très clairement. Évidemment, on les retrouve aussi par le truchement du marché noir et puis du trafic. C'est tout l'enjeu actuel. L'industrie du tabac, qui est une industrie extrêmement puissante, qui a pignon sur rue depuis plus de 50 ans, même plus que ça, s'est transformée en industrie de la nicotine parce qu'elle elle s'est finalement arrogée le rôle de la prévention et de la réduction des risques, puisque comme on l'a dit en début d'émission, la nicotine est l'élément qui permet de tenir et d'éviter et de réduire les risques liés aux maladies graves. Et donc, ils se sont engouffrés ils ont eu les vêtements finalement de la prévention et de la réduction des risques en proposant des produits, mais en marketant et en ciblant auprès de jeunes tout à fait naïfs concernant la nicotine et le tabac. C'est là où très clairement, il faut être très vigilant. C'est vrai qu'on a une baisse très importante, mais attention...
Est-ce que ça vous semble durable, cette baisse de la consommation du tabac, notamment chez les jeunes?
À titre personnel, je pense que oui. En revanche, il faut être très vigilant sur la mue de l'industrie du tabac en une industrie de la nicotine. Et je pense qu'il faut faire attention aussi, je l'ai dit d'ailleurs en off, à
Serdar Kaya, qui représente la Confédération française des buralistes.
La fédération fait des efforts, mais je pense que ce n'est pas suffisant vis-à-vis du nombre de buralistes qui continuent à vendre du tabac à des mineurs, malgré eux peut-être, mais qui continuent à le faire.
Serdar Kaya, est-ce que vous avez constaté, on parlait de lobbying, est-ce que vous avez constaté chez les buralistes une offensive pour inciter les jeunes à avoir le réflexe d'inhaler quelque chose, d'avoir quelque chose entre les doigts, les puffs au goût fruité, toutes ces cigarettes électroniques jetables. Vous recevez des pressions un peu pour vendre ces objets ?
Mais non, 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 on n'a aucune pression là-dessus. La seule réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de nous remettre en question pour pouvoir aussi avoir une visibilité économique sur notre métier. Nous avons aussi un vrai lien social qui est assez fort dans les territoires. Vous savez, il y a une étude qui montre aujourd'hui que 70% des Français font confiance à leurs buralistes. Là, si on va trop vite sur des démarches à pénaliser aussi à la fois les consommateurs en allant trop vite et à la fois les buralistes qui sont présents sur un maillage important, eh bien, il faut avoir cette prudence. Vous savez, 5 milliards de pertes fiscales, c'est quelque chose de
4 milliards et demi de pertes fiscales sur la contrebande,
sur la contrebande
du marché de la contrebande en France.
lorsqu'on arrivera à avoir une réduction des écarts de prix avec les pays européens, moi je suis originaire des Hauts-de-France, dans le Nord-Pas-de-Calais, on parle d'une fiscalité comportementale. Eh bien, assurez-vous que depuis quelques mois, le Nord-Pas-de-Calais retrouve des consommateurs avec une vente de volume et de valeur en hausse. C'est pas réjouissant sur ce point-là. Le seul point qui est rassurant, c'est que la fiscalité est française et les consommateurs achètent du tabac français. Il y a un tabac qui échappe à la fiscalité française, qui est à hauteur de 5 milliards à peu près. Et là, c'est quelque chose d'important qu'il faut souligner.
Professeur Amin Benyamina, qu'est-ce qu'on trouve dans ces cigarettes de contrebande encore pire poison que dans les marques connues?
On ne connaît pas les produits à l'intérieur, évidemment, parce que ce sont des cigarettes qui sont fabriquées avec un marketing qui rappelle les cigarettes classiques. Il y a de la nicotine, il y a parfois des additifs, et là-dessus, vraiment, c'est un problème. Je pense qu'il y a un point qui est très important, c'est l'harmonisation fiscale au niveau de l'espace européen. Il est anormal qu'un produit qui coûte 125 milliards d'euros à la France, ça coûte 125 milliards par an.
Qu'est-ce qui coûte 125 milliards à la France ?
C'est le prix, c'est le prix de la consommation du tabac en matière de mort, en matière économique. C'est vraiment des coûts directs et indirects, ne puissent pas faire l'objet d'une harmonisation européenne. Et là-dessus, on est d'accord. L'interdiction du tabac est un appel d'air pour le trafic, on est absolument d'accord. Autre élément qui me semble utile et important à rappeler, la cigarette électronique pour les consommateurs est un des dispositifs les plus révolutionnaires pour réduire le risque lié à la consommation du tabac. Il faut le promouvoir. En revanche, la nicotine dans un dispositif marketé pour les jeunes, il faut le lutter contre et il faut absolument mettre en place les interdictions nécessaires là-dessus.
Et des interdictions de quel ordre, par exemple ?
Eh bien, il est interdit de consommer de la puff, puisqu'on ne l'a pas dit. Il est interdit, d'une certaine manière, où il faut dissuader les jeunes de consommer de la nicotine comme étant une première entrée en matière avec ce dispositif.
01 45 24 7000, Bruno est en ligne. Bonsoir, Bruno.
Oui, bonsoir.
Témoignage ou question ? Allez-y, vous êtes à l'antenne.
Témoignage, je voulais réagir par rapport à ce qu'avait dit l'animateur en début d'émission, disant qu'il y avait trois raisons pour lesquelles il y avait moins de fumeurs. Le prix de la cigarette, la loi Evin, et la troisième, je me souviens
plus. Les campagnes de santé publique.
Campagnes, voilà. Mais pour moi, il y a une raison très importante, c'est que l'image de marque des fumeurs qui était très positive, virile, liberté, etc., il y a 30 ans. Maintenant, cette image de marque des fumeurs est plutôt moins bonne. On pense, pour moi en tout cas, d'être fumeur, ça fait un peu ringard, quoi. Alors qu'avant, c'était plutôt... on était branchés, on était bien, et que maintenant, on a une moins bonne image des fumeurs.
Merci de ce témoignage. On l'avait un peu évoqué, mais enfin, ça fait du bien de le rappeler. L'image du fumeur, c'est ringardisé. Vous en avez le sentiment, Serdar Kaya, parmi vos buralistes. D'ailleurs, si on essaye, on va enlever le mot ringard, mais on va parler de CSP+, de catégories socio-professionnelles. Qui vient acheter le plus de tabac, les cadres ou les ouvriers ? Il me semble que ce sont les ouvriers.
Oui, si on peut se poser la bonne question, c'est qu'aujourd'hui, hélas, c'est parfois les CSP plus qui fument moins et parfois les couches sociales inférieures qui aujourd'hui ont plus tendance à fumer. Pourquoi ? Parce que leur cadre de vie peut être difficile. Mais ce qui est important aussi, vous voyez, on a eu l'étude de Santé publique France et l'étude TAF sur la tax gap qui annonce près de 60% de cette revente sur les zones frontalières. C'est pas forcément parce que on est dans une zone populaire ou dans une zone difficulté financière qu'on fumera plus, mais c'est parce que, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, c'est que si le prix du tabac est moins cher en Belgique ou au Luxembourg, et bien maintenant, si j'arrive à avoir cette cigarette au même prix à deux pas de chez moi, j'irai le procurer chez moi. Et donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur une harmonisation européenne, sur la réduction des écarts de prix, et c'est par là qu'on retrouvera aussi peut-être un équilibre sur la consommation. Mais moi je suis persuadé qu'aujourd'hui, les modes de consommation ont changé sur toutes les couches sociales, peut-être encore sur les couches un peu plus inférieures, mais en tout cas il y a une baisse tendancielle chez les CSP+, en effet.
Professeur Amin Benyamina.
Absolument vrai, simplement il faut le rappeler, vous l'avez dit, sur les couches un peu, disons, populaires, c'est quand même assez catastrophique. Hein. C'est la deuxième fois qu'on mesure et qu'on se rend compte que c'est quand même cette population qui est la moins concernée par les campagnes de sensibilisation et qui, très clairement, est pénalisée par l'augmentation du prix, mais sans effet. Et là-dessus, franchement, il faut une mobilisation sociale et sociétale pour que ces personnes dans la société ne soient pas pénalisées doublement. Et là-dessus, vraiment, il faut qu'on fasse un travail de pédagogie.
01 45 24 7000, ce soir, on vous sollicite pour nous raconter, témoigner de votre rapport à la cigarette et autres vapoteuses.
France Inter. Le téléphone sonne.
Nathalie est en ligne de Toulouse. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Vous êtes à l'antenne.
Eh bien écoutez, c'est pour vous apporter un témoignage, hein, pour ceux qui ont du mal à arrêter de fumer, juste un témoignage. J'ai commencé à fumer, j'avais 20 ans, j'en ai 62 et j'ai arrêté il y a 2 ans. Et pour moi, la cigarette faisait juste partie de ma vie et je me disais que si j'arrêtais de fumer, j'allais être tout simplement triste, il allait me manquer quelque chose. Et c'est grâce à l'hypnose que j'ai pu arrêter, parce qu'en fait, j'avais pas du tout envie, j'avais pas vraiment de volonté, et je cherchais un moyen, voilà, d'arrêter, mais sans que ce soit moi finalement qui fasse l'effort. Et je suis mais tellement heureuse. Donc le message, c'est juste après avoir fumé pendant 40 ans et me dire que si j'avais pas cette cigarette, je serais triste. C'est juste de dire que c'est génial, quoi. Voilà.
On ne vous sent pas triste du tout ce soir à l'antenne, Nathalie, à Toulouse. Merci beaucoup de ce témoignage. Je vais le transmettre au professeur Amine Benyaminal. Il y a deux choses que je retiens. Elle a commencé à fumer à 20 ans pour s'arrêter à 62 ans. Est-ce que plus on commence tôt, plus on a du mal d'arrêter?
En tout cas, plus on commence tôt une addiction, et plus, du moins un produit qui a un pouvoir addictif, et plus on risque d'avoir une addiction. Et évidemment, elle a beaucoup fumé, mais le fait d'arrêter, c'est déjà une excellente nouvelle. Je retiens aussi deux éléments. Le fait d'avoir évoqué la tristesse, c'est une réalité absolue. Il y a des liens réel et mesuré entre la consommation du tabac et l'arrêt du tabac et les risques de déprimer. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut un accompagnement quand on arrête de consommer, pour des raisons physiologiques et pour des raisons aussi liées finalement au deuil du tabac. Et donc elle a tout à fait raison. Et deuxième point,
l'hypnose,
absolument. Et je peux vous assurer que là, pour le coup, après avoir eu des débats théorique enflammée chez les addictologues, tabacologues et psychiatres. Moi, je fais partie de ceux, ils sont nombreux maintenant, à ne pas vilipender cette technique qui fonctionne. Je dis souvent à mes étudiants, à mes patients, toutes les techniques sont bonnes quand on sait qu'elles peuvent vous extraire d'une addiction très, très, très dure qu'est le tabac.
Serdar Kaya, je rappelle que vous êtes le président national de la Confédération française des buralistes. Comment réagissez-vous aux détracteurs qui reprochent aux buralistes d'entretenir un marché de la honte?
Écoutez, c'est tout de même un produit qui est vendu légalement, sous l'égide de l'État. Et je crois que le marché de la honte, il existe par le marché de la contrebande et de la contrefaçon qui explose. Moi, je pense qu'on tire les conséquences d'une fiscalité punitive qui aujourd'hui fait qu'il y a, on l'entend par ces témoignages, de très bonne volonté de pouvoir arrêter de fumer. Ces témoignages annoncent clairement que, finalement, nous devons mettre les moyens sur une forme pédagogique, sur une forme explicative sur les conséquences de ce que ça peut apporter le tabac. Mais à vouloir toujours augmenter le prix, tout en laissant cet appel d'air sur un marché de contrebande et de contrefaçon, pour dire que, finalement, si vous achetez pas votre cigarette chez votre buraliste, un réseau de bandes organisées peut vous proposer ces produits-là très légèrement, très facilement.
Vous avez demandé à Emmanuel Macron, je crois, de mettre un moratoire sur l'augmentation. Non, vous me regardez avec des grands yeux, donc c'est faux. Je pensais que vous aviez fait passer à l'Élysée un texte pour suspendre, arrêter les augmentations. Bah bon, d'accord, c'est les gros yeux que je voyais.
Non.
Et quelle réponse avez-vous eue à votre requête ?
Pour avoir échangé hier avec Madame la Ministre, notre seule volonté, c'est de pouvoir avoir une visibilité, avoir aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, une vraie réduction des écarts de prix. Ce travail, c'est un travail avant tout européen. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons une augmentation du prix du tabac très rapide, nous, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir cette baisse de volume qui fait que, financièrement, parce que je suis là aussi pour défendre des professionnels honnêtes qui veulent aussi défendre leur business, mais tout en amont, en ayant aussi cette capacité de pouvoir se projeter sur un avenir économique plus solide. Alors si on augmente les prix du tabac, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons avoir un maillage qui va s'affaiblir, donc des zones blanches, donc remplacé par un marché de contrebande et de contrefaçon, et à ce moment-là, nous allons avoir un produit prohibé.
Ce marché
qui
de contrebande,
délicat.
Vous parliez de la région Nord, mais il existe à chaque zone frontalière de l'Hexagone?
Il existe dans toute la zone, dans toute la France, sur tous les territoires. Et j'étais assez surpris de voir hier que, en fait, moi qui pensais que cette zone, ce marché parallèle était assez fort en Île-de-France, eh bien, il est aussi fort dans les zones frontalières et c'est dans les zones comme l'Est ou l'Ouest.
Professeur Amine, oui. Benyamina, est-ce qu'il y a une corrélation entre l'augmentation des prix et à chaque fois une baisse de la consommation? Ça se vérifie à chaque fois?
Oui, absolument, je suis désolé de le dire, mais quand on fait le PNLT, le plan de lutte contre le tabac, la mesure phare la plus importante pour laquelle on milite, nous, en tant que soignants, c'est l'augmentation du prix.
Et c'est la plus efficace.
Et plus le prix est élevé en une seule fois, et plus la baisse est importante.
Ça dit, il y a bien un seuil où on ne pourra plus augmenter le paquet de cigarettes.
Écoutez, le paquet de cigarettes en Nouvelle-Zélande est à 27 euros, on est encore loin. Non, cela dit, on n'a rien contre les buralistes, ils le savent, on a souvent l'occasion de discuter. Ils sont l'effecteur final d'un système. Il faut remettre à plat le système. Si on veut éviter des morts, si on veut éviter que ça coûte aussi cher, il faut trouver un moyen de protéger les Français, les nouvelles générations, peut-être trouver pour le buraliste que vous êtes un moyen de gagner sa vie autrement qu'en ayant un produit qui tue. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont.
L'augmentation du prix du tabac peut notamment dissuader les néo-fumeurs.
C'est ce qu'on veut. Les néo-fumeurs, ce sont les jeunes. Et c'est ce qu'on veut. Et plus le paquet est élevé, et moins ils auront la possibilité d'acheter des cigarettes, forcément.
Nadia est en ligne, 01 45 24 7000 au standard. Bonsoir Nadia.
Bonsoir.
On vous écoute. Vous appelez de Paris.
Pardon, j'appelle de Paris. Moi, je n'ai jamais acheté de cigarettes de contrebande. J'achetais mes cigarettes au bureau de tabac. Et ce qui m'a incité et qui m'a permis d'arrêter de fumer à plusieurs reprises, c'est le mois de novembre sans tabac, avec le petit kit où on sert les situations de reprise et qu'on évite à l'avenir. J'ai pas eu besoin de tabacologue ou d'hypnothérapeute ou d'acupuncteur. Et j'ai arrêté comme ça. Voilà.
Avec, comme déclic, le mois sans tabac. Merci de ce témoignage. Professeur Amine Benyamina, demain donc débutera le mois sans tabac. C'est une campagne qui est gratuite et personnalisée. Je comprends bien le gratuit. Je comprends moins bien le personnalisé. Il faut donc s'inscrire. Qui nous suit?
Vous avez des tabacologues qui peuvent vous suivre. Il y a Tabac Info Service. On a une déclinaison de ce mois sans tabac partout en France, dans les hôpitaux, dans les municipalités, dans les structures de soins, dans les lieux publics. C'est vraiment une des plus belles opérations de santé publique, au sens public, au sens de France Inter, quoi, je veux dire, à disposition du public, qui marche. Et tous les ans, on arrive à embarquer, entre guillemets, beaucoup de gens qui, au départ, n'étaient pas concernés par l'arrêt du tabac, qui se retrouvent à avoir ce déclic, cette motivation. Et on a quand même, des groupes de personnes qui décrochent pendant le mois de novembre. Et là, c'est fantastique, on a très clairement ce témoignage.
Ce témoignage, ça fait 10 ans que cette campagne de santé publique, faites quel bilan? Donc, au bout de 10 ans, ça a démarré mollement
Ça a démarré mollement. On a maintenant beaucoup, beaucoup de monde qui suivent, et qui suivent ce mois de novembre qui devient un mois rituel, hein, évidemment.
Mm-hmm. Serdar Kaya, comment avez-vous vécu cet été les interdictions de fumer décrétées sur les plages, dans les parcs ou près des écoles? Vous vous êtes dit, mais ce métier de buraliste, on veut nous le faire fermer définitivement. Comment avez-vous réagi à cela?
Très honnêtement, je pense que c'est aussi en phase avec l'évolution de la société sur ces espaces, on va dire, plutôt safe, plutôt tranquille. Et ça, c'est quelque chose dans lequel, nous aussi, on accompagne les municipalités pour avoir des espaces sans tabac. Ça, c'est quelque chose de très juste. J'aimerais revenir sur un point et sur le danger d'avoir un prix du tabac très élevé. Les pays où ils ont eu cette politique fiscale d'un prix du tabac très élevé, qu'est-ce qui se passe? C'est un produit qui est prohibé, où là, réellement, il y a de vrais dangers de sécurité et surtout d'insécurité. Alors aujourd'hui, si on va très vite sur cette démarche-là, Moi, je préfère qu'on puisse travailler sur des démarches pédagogiques, qu'on augmente le prix du tabac d'une manière très forte, où là, on va avoir des vrais problèmes de narcotrafic. Et c'est là-dessus où on en tirera les conséquences, vous et nous. Donc, travaillons sur une forme pédagogique, sur le mois du...
Mais dites-nous, par exemple, chez les buralistes, quelle forme de pédagogie vous êtes prêt à apporter pour limiter la consommation de tabac, et notamment de la contrebande ?
Eh bien, vous voyez, moi, il y a deux points. Sur la contrebande, le mois sans tabac, c'est une opportunité pour nous de dire que ces 5 milliards de pertes fiscales, c'est tout de même 40 hôpitaux en plus pour les caisses françaises et pour l'État, là où on manque d'hôpitaux. Mais à l'inverse aussi, ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est que je suis jeune président, j'ai 34 ans, et moi je crois à l'avenir de notre métier. Et dans mon programme que j'ai présenté à mes collègues, c'est fédérer, conquérir, innover. Innover, c'est aller chercher ses opportunités business, avoir un ou deux coups d'avance. Je parlais tout à l'heure avec professeur, en disant... L'industrie du tabac sera en capacité de créer de nouveaux produits. Soyons en disponibilité pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir encadrer ces nouveaux produits, les proposer à nos clients. Je suis persuadé qu'avec la recherche, nous allons vendre des produits qui sont beaucoup moins nocifs, les produits évoluent, et nous, nous allons devoir chercher ces nouveautés pour les vendre dans nos commerces.
Réinventer le métier de buraliste, ça passe peut-être aussi par une nouvelle vocation, ne pas simplement vendre du tabac, mais est-ce que vous réfléchissez aussi à une nouvelle vocation de vos boutiques ?
Complètement. Selon notre singularité, que ce soit rural ou urbain, nous, on a en capacité d'aller développer certains business qui sont aujourd'hui comme le CHR, comme la diversification de nos produits sur le marché de la vape, mais pas que. Nous allons avoir des buralistes qui vont transformer leur espace en vin, en spiritueux, et il y a de nouveaux business à aller chercher, mais nous restons dans un ADN tabac et nicotinique, quoi qu'il en soit.
Lucie est en ligne au Standard de France Inter. Bonsoir Lucie.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
J'ai 35 ans, j'ai commencé à fumer à 16 ans. À partir de 20 ans, j'ai commencé à essayer d'arrêter avec des patchs. Au sens propre, j'ai dû arrêter plus d'une soixantaine de fois avant de véritablement arrêter. C'est-à-dire que j'arrêtais 2-3 jours, je reprenais. Une semaine, je reprenais. 3 semaines, je reprenais. 3 mois, je reprenais. Tout ça durant 13 ans. Et c'est au bout de 13 ans que j'ai eu 2 arrêts de 6 mois. Et ensuite, il y a eu celui qui a été décisif. Mais donc, ce qui m'a énormément aidé aussi à arrêter, c'est le prix du tabac. Je fumais un paquet de cigarettes par jour. À un moment, c'était soit ça, soit les vacances. Et moi, c'est clairement le prix du tabac qui a fait... Je pense que ça a mis un coup d'accélérateur. Voilà.
C'est ce que disait le professeur. Effectivement, l'impact du prix, de l'augmentation des prix, l'impact sur la réussite des tentatives d'arrêt de fumer. Professeur Amine Benyamina, 16 ans, première cigarette. Il a fallu 13 années et 60 tentatives à cette auditrice pour avoir... Un premier début de réussite. Comment l'addictologue que vous êtes regarde-t-il cela ?
Avec quelque chose qu'il voit régulièrement. Je veux dire, c'est très difficile. C'est une addiction qui est redoutable. La nicotine vient stimuler un système qu'on appelle le système de récompense de la même manière qu'on pourrait le faire avec de l'héroïne.
C'est les endorphines.
C'est les endorphines, dopamine, tout ça. Et en plus, ça, le sevrage est pénible. Le craving, c'est-à-dire cette envie de consommer est très présente. Et je voudrais réagir sur ce qu'a dit votre invité. Évidemment, je ne veux pas être désagréable, mais bon, vous êtes jeune, vous l'avez dit, ce n'est pas moi qui le dis, vous avez envie d'y croire. Mais je peux vous assurer que quand même, c'est un métier difficile, buraliste, parce que vous promouvez quelque chose qui, au bout, rend malade les gens. Vous en avez conscience. Tue les gens.
Mais c'est comme le dit lui-même, c'est un produit légal.
L'alcool, il y a plein de sujets aujourd'hui.
C'est un produit légal.
Je crois que...
Complètement.
C'est un produit légal.
C'est un produit légal, mais pour autant, on peut le critiquer.
On fait...
Sur l'alcool, vous me trouverez aussi. Je peux vous assurer que la France est loin d'être un exemple. Mais sur le tabac, je pense que clairement, on est sur quelque chose qui est une contradiction. C'est-à-dire, avoir une éthique du tabac, ça me paraît quelque chose de difficile à intégrer dans mon esprit.
Ou en tout cas une éthique des habitudes de vapotage de plus en plus, vous regardez ça de plus en plus.
On évolue, on avance et évidemment je ne vais pas dire que le tabac est bon pour la santé, bien au contraire.
Ah bah tant mieux, je m'arrête là.
Si je peux rassurer là-dessus, il n'y a pas de souci. Là-dessus on est assez clair. Et pour le coup, nous avons aussi de vrais enjeux pour pouvoir préserver ce maillage. Et je vous dirais aussi que ça reste le buraliste, le patrimoine français, le patrimoine culturel qu'il faut préserver et à nous d'évoluer pour proposer ces alternatives.
Le Royaume-Uni envisage de créer une interdiction générationnelle, c'est-à-dire que le tabac serait interdit à la vente pour toute personne née à partir du 1er janvier 2009. Est-ce que la France et l'Europe doivent s'en inspirer ?
Je reste réservé sur les interdictions. L'interdiction complète génère, là pour le coup on est d'accord, évidemment les contre-interdictions et les transgressions. Je pense qu'il faut accompagner, faire de la pédagogie, augmenter les prix et permettre une extinction complète et permettre une génération qui va émerger de ces pratiques. Et le prix est un pivot, mais il y a d'autres moyens évidemment d'arriver à une génération, à des personnes qui arrêtent de consommer.
Une baisse des fumeurs en France, est-ce que nous sommes à la pointe en France, parmi les autres pays européens ?
En tout cas, sur l'enquête ESPAD, c'est une enquête qui a mesuré la consommation du tabac, du cannabis et de l'alcool chez les adolescents de 16 ans, la France est au-dessous de la moyenne, et ça c'est quelque chose de remarquable, on peut dire un peu pour une fois cocorico là-dessus.
Question d'auditeur aussi sur l'appli Radio France. Est-ce que l'on a une idée de l'impact des photos effrayantes avec les maladies affichées sur les paquets de cigarettes depuis 2011? Est-ce qu'il y a une étude précise qui nous dit, voilà, ça a dissuadé ou pas dissuadé?
Je ne l'ai pas en tête, mais je pense que ça a contribué, notamment pour les primo-consommateurs et pas pour les consommateurs installés.
Les primo-consommateurs, je rappelle cette étude qui dit qu'il y a seulement 3% des adolescents de 16 ans aujourd'hui qui déclarent fumer tous les jours. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir répondu aux questions des auditeurs de France Inter. Le téléphone sonne, c'est terminé.